Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives. Et ce soir, nous allons parler d'un personnage important du chant synagogal. Il s'agit du chazan, un terme hébraïque désignant le chantre ou le ministre officiant en charge de la prière durant l'office public. Le rôle du chazan est complexe et c'est ce que l'on va voir ce soir avec notre invité, le chazan Jacques Arnold. Jacques Arnold, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Jacques Arnold, nos auditeurs vous connaissent bien puisque vous avez déjà participé à plusieurs de ces émissions et vous avez été chazan, donc chantre, pendant des années à la synagogue de la Fondation Rothschild dans le 12e arrondissement de Paris, c'est bien cela ?
Oui, pendant plusieurs décades même, et j'y reviens de temps en temps avec grand plaisir pour retrouver les fidèles que l'on a côtoyés pendant tant d'années. Et puis également, lorsque je me rends dans d'autres synagogues, il m'arrive d'être convié spontanément à officier. Mais surtout, quand on aime et quand on veut comprendre l'étendue de la chazanout, il faut être un bon auditeur, un de ceux qui aiment apprécier tout ce qui se fait dans ce domaine, dans ce grand univers que constitue la chazanout, et d'approfondir aussi les textes des prières, c'est important.
Donc en plus, non seulement vous faites tout ça, mais depuis 6 ans voire plus, vous venez chaque semaine à l'Institut européen des musiques juives nous aider. Vous êtes, je dirais même, notre monsieur liturgie, et à ce titre, votre connaissance évidemment des prières, du chant et des textes sacrés est très précieuse, puisque vous êtes capable d'identifier n'importe quelle prière ou presque. Ouais. Et, or, comme nous recevons régulièrement des documents sonores, des cassettes par exemple sur lesquelles ne figure aucune indication, vous les écoutez. Et vous pouvez nous donner donc le nom des prières qui sont chantées, ce qui nous permet après évidemment de les cataloguer, les numériser, de les mettre en ligne sur notre site internet et donc de les faire revivre. Mais ce soir, Jacques Arnold, vous êtes là pour une toute autre raison. Donc comme on l'a dit, vous êtes là pour nous faire découvrir ce mystérieux personnage, quel chazan. Alors, comme la musique vaut mieux que la parole, comme le dit un célèbre proverbe racidique, je vous propose d'écouter tout de suite une première pause musicale. Il s'agit du chazan Shalom Berlinski, qui fut premier ministre officiant à la Grande Synagogue de la Victoire de 1948 à 1979. Nous venons d'entendre le chazan Shalom Berlinski nous interpréter la fin de la prière Anno Avdo. C'était extrait donc du CD Shalom Berlinski, la voix de la ferveur, publié dans la collection Patrimoine musical des Juifs de France. Il s'agit du volume 3, collection donc, qui est faite et réalisée par l'Institut européen des musiques juives avec l'aide de la Fondation du judaïsme français. Jacques Arnold, il s'agit d'une prière toute en intériorité. Quand est-elle chantée exactement?
Alors, il s'agit en fait de la partie finale de Berir Shemei, qui est un texte en araméen. Ils ne sont pas nombreux, les textes en araméen de la prière, comme le Kaddish, comme Raza de Shabbat aussi, qui se dit la veille de Shabbat. Ce sont des textes très imprégnés de mystique. D'ailleurs, c'est un extrait du Zohar, hein, que le Berir Shemei, que l'on chante au moment de l'ouverture des portes du tabernacle pour sortir la Torah. Et ce qui a été dit ici, c'est comme un monologue profond qui est entonné par le Chazan ici, dans lequel il dit qu'il te soit agréable d'ouvrir mon cœur à la Torah et d'exaucer les vœux de mon cœur et des cœurs de ton peuple Israël pour le bien, la vie et la paix. Amen. C'est vraiment le fait de remettre ensemble les fidèles, le Chazan, devant cette ouverture de la Torah qui est un moment solennel dans l'office du samedi matin et des jours de fête.
Et alors, donc cette prière, en fait, dans le judaïsme, est-ce qu'elle est lue, est-ce qu'elle est chantée, est-ce qu'elle est... Parce que là, on a l'impression qu'on est un petit peu entre la lecture, enfin la psalmodie ou le chant. Qu'est-ce qui se passe généralement dans l'office synagogue?
En fait, on a une expression par la chazanout, par le fait de donner une couleur, une tonalité donc au texte. D'abord, on sort de la sécheresse du texte lui-même et on le met dans une sorte d'intonation qui est à la fois de la demande, comme on le voit ici, aussi de rendre grâce à Dieu en même temps. Donc on le fait sous une forme d'invocation qui permet de livrer son sentiment. On pourrait le faire, il y a des versions plus joyeuses ou plus rythmées que celle-ci. On a choisi une qui reflète vraiment le très profond, comme dans la profondeur du Shabbat, de la mystique, de tout ce qui est très profondément ressenti dans les termes même de la prière. Et c'est ainsi que le Chazan, ici, c'est un morceau que Shalom Berlinski ne devait pas souvent interprété, puisque dans certains rites, on ne le dit pas, le Berir Shemei, la synagogue de la victoire, cela ne se disait pas. Donc là, on retrouve son origine, il était originaire de Radom, en Pologne, donc on retrouve vraiment les intonations de cette liturgie-là.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, en fait, c'est qu'on a effectivement les textes, le texte, mais que sans le chantre, sans le Chazan, si vous me permettez une comparaison, c'est un petit peu comme le comédien ou l'interprète d'une pièce de théâtre. Je veux dire, il a le texte de la pièce de théâtre, en quelque sorte, sauf que là, évidemment, c'est pas du théâtre, mais que c'est lui qui doit se faire... il doit, en fait, apporter à son auditoire tout ce qu'il y a derrière les mots.
Mais oui, d'abord, c'est cela... vous savez, dans la tradition, quand on doit désigner un officiant, on prend une personne qui a d'abord un certain âge, qui n'est pas trop jeune, qui est marié, qui a des charges familiales, qui a des problèmes, pour que justement il soit comme un délégué de la communauté. Il est un chaliar tzibour, on le redira peut-être tout à l'heure. Il est le délégué, donc il doit représenter, comme il le dit ici à la fin de la prière, mon cœur, je demande à Dieu d'exaucer les vœux de mon cœur et de tout mon peuple d'Israël. Donc il est vraiment le délégué, le représentant, et il va le faire avec émotion, avec en y mettant une couleur, en y mettant un ta'am, c'est-à-dire un goût, une véritable valeur, une couleur qui soit la plus marquée possible.
Et alors, dites-nous, quand est-ce qu'est apparu ce personnage de Chazan dans la liturgie synagogale? Parce qu'à l'époque biblique, on ne parle pas de Chazan de chantre, enfin en tout cas...
Non, c'est vrai que dans l'ensemble de la Bible, il est question de Meshororim, dans le livre des chroniques, dans les grandes fêtes, dans les grandes célébrations à Jérusalem, autour du temple. Il y avait les Lévim, bien sûr, qui avaient des instruments. Ils devaient chanter chaque jour le psaume du jour. Il y avait un chant qui devait... Sans doute, on n'en a plus les traces de nos jours, même si on essaie d'en reconstituer un petit peu des petites bribes. Mais
Vous voulez dire que le chantre, en fait, est rattaché à l'institution synagogale. C'est avec l'émergence de la synagogue.
En effet, dès que les synagogues commencent à exister en Babylonie pendant l'exil de Babylonie, c'est-à-dire au 5e siècle avant notre ère, et puis à partir du moment où il y a des exils, à partir du moment où l'on a recours à la synagogue pour adresser la prière, c'est le Hazan qui va avoir ce rôle d'être le délégué de l'Assemblée, comme on l'a dit. Et par conséquent... Cela va se poursuivre pendant toutes ces périodes, déjà dans le Talmud, dans la Mishnah, on parle de Ha'over, Lifnei Hateva, on parle de celui qui est désigné pour se mettre devant le pupitre. Parce qu'il faut qu'il y ait un coordinateur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le maître de cérémonie, si l'on peut dire, pour que tous les fidèles, à l'époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas... donc on avait besoin de quelqu'un qui est là pour mener le jeu de la prière, pour faire en sorte qu'elle soit... répartie, qu'elle soit entendue par tous, qu'il y ait des repères, pas que l'on, qu'à chaque moment où l'assemblée doit intervenir, eh bien on le sache, et que ce soit lui qui donne le comme un chef d'orchestre. Je dirais que c'est plus un chef d'orchestre qui va faire en sorte que le kahal, l'assistance, eh bien se sente soutenu, se sente maintenu dans une démarche qui est celle de la prière.
Et son rôle est d'autant plus important finalement que, comme vous le savez sans doute, le chant de chaque synagogue varie en fonction de l'origine des fidèles. Si les fidèles, par exemple, proviennent majoritairement d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, le chant va relever de ce qu'on appelle globalement un rite ashkenaz, pour simplifier les choses, mais avec de multiples variantes à l'intérieur de ce rite, en fonction de la région précise d'où provient le rite. C'est ce que vous appelez les noussars, je crois.
En effet, donc, au départ, on avait les chazanim qui existaient après la destruction du temple. Ensuite, au cours des siècles, au Moyen-Âge, eh bien, avec des textes poétiques vont rentrer dans le corpus de la prière, les piyutim de Kalir, et dans toutes les communautés, on va introduire des poèmes qu'il appartiendra aux Hazanim de mettre en avant, d'interpréter, parce qu'ils n'étaient pas connus avant qu'ils ne soient composés. On aura ensuite la Renaissance italienne avec sa musique, ses propres nouveautés qui vont, au fur et à mesure que l'exil du peuple d'Israël avance et que dans la culture environnante, eh bien, on ait des musiques qui deviennent de plus en plus élaborées, de plus en plus chantées, interprétées, etc. On arrive, avec le XVIIIe siècle, au XIXe, on arrive vraiment à une profusion, à un véritable feu d'artifice de composition de sous les influences des musiques environnantes, et puis même à la fin de l'opéra. Donc, étant donné que l'on est géographiquement dispersé de par l'exil, chaque communauté va avoir des particularités, des spécificités, et il appartient au Hazan de bien les définir, de bien les maintenir, de bien les respecter, pour que le fidèle s'y retrouve, pas que l'on picore par-ci, par-là, et c'est ce qui va être le cas, donc notamment, là on va
écouter... Dans l'extrait que nous allons écouter dès à présent, il s'agit d'un chantre qui s'appelle, ou qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Joseph Borin, 1893-1970, né dans un village près de Varsovie au sein d'une famille chassidique. Il a étudié l'art cantorial à Berlin avant de rejoindre la communauté israélite de Strasbourg en 1933. Et il a passé la guerre, et après la guerre, le point culminant de sa carrière, ça a été justement la consécration, l'inauguration de la synagogue de la paix à Strasbourg en 1958. Et nous allons l'entendre dès à présent dans un enregistrement publié à l'occasion du 15e anniversaire de cette synagogue. Il s'agit de la 5e bénédiction du Shabbat ou des fêtes, Retzep, interprétée ici par Joseph Borin.
Es tu amor.
Écoutez, le Razan, donc Joseph Borin, nous interprétait le Retse avec l'orgue, sans doute de la synagogue de Strasbourg, comme cela se faisait à l'époque. On est évidemment dans le rite ashkénaze ici, d'Europe centrale.
Très marqué, très, très bien interprété. Vraiment, c'est la première fois que je l'écoute grâce aux archives de l'Institut européen des musiques juives.
Oui, si ça vous intéresse, on a des milliers et des milliers d'airs de ce genre. Jacques Arnold, pourriez-vous nous donner une définition précise du rôle du Razan ?
Son rôle est avant tout communautaire. Il se situe essentiellement au moment des offices. C'est là qu'il a vraiment son rôle de dirigeant, d'arbitre de la prière. Mais pas seulement. C'est que cela va au-delà. Le Razan, c'est l'homme avec lequel on a, dans une communauté en général, une grande proximité. Parce que, d'abord, on peut voir avec lui, on peut commenter la manière dont cela a été interprété, on peut discuter, on peut s'entretenir de souvenirs, ou de dire, tiens, ceci est plus approprié, on l'a mieux ressenti. On peut partager avec lui bien des impressions. Et puis, il est toujours, j'ai beaucoup de souvenirs personnels de nombreux Razanim, puisque là, on est en train de redécouvrir ou de découvrir des Razanim parisiens ou français, en tout cas. Je me souviens de toutes ces personnes qu'on voyait au Talmud Torah, de tous ces officiants qui nous aidaient à chanter, qui nous faisait une petite chorale, qui nous préparait à la bar mitzvah. C'est ça le rôle du Razan, c'est un homme qui est très proche des fidèles, proche des futurs, des enfants qui vont être amenés à tenir un rôle dans la synagogue par une petite intervention, par un chant. Et il veillait toujours à ce que cela soit de qualité, c'est-à-dire les personnes que j'ai connues veillaient à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi, on ne laisse pas faire l'enfant qui veut partager ou participer à l'office, on lui donnait toujours de bons conseils. Je me souviens vraiment de cet aspect. Peut-être aujourd'hui, on a perdu un petit peu cette habitude. On laisse maintenant, sous prétexte que c'est un enfant, alors on lui laisse la piste libre. Mais ce n'est pas toujours heureux. Il faut, je crois, veiller à ce que la qualité, le respect du texte, des mots, des intonations, des accents, tout ceci soit bien marqué. C'est ça, je crois, le rôle de transmission que le Razan doit avoir, en dehors de son côté, on va dire, de quelqu'un qui se produit sur le devant de la scène, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas seulement un interprète, c'est aussi un homme qui va faire partager, qui va assurer la transmission, finalement, de ce rite. Parce que c'est cela, le problème de nos communautés.
Mais alors, je vais vous poser une question peut-être un peu piège, mais alors, entre le rôle du Razan et le rôle du rabbin, le rabbin, rappelons que ça veut dire un rabbi, c'est
le maître.
Et le Razan, c'est quand même deux rôles très différents et très complémentaires. Comment ils se partagent un peu les choses, en fait?
On pourrait dire, d'abord, toute personne qui qu'elle ait un rôle, qu'elle soit, comme on dit en yiddish, un clay kodesh, c'est-à-dire un ustensile de la sainteté de la synagogue ou bien de ce qui est autour. On peut parler du shochet, on peut parler du moël, on peut parler donc du sacrificateur, on peut parler de celui du scribe qui écrit. Toute personne qui s'implique dans la vie religieuse doit avoir des connaissances presque aussi importantes qu'un rabbin. Donc chacun dans son domaine. Un chazan ne doit pas ignorer les principes qui interviennent dans le bon déroulement des offices, etc. Donc il est aussi un petit peu rabbin dans son rôle et dans l'attention qu'il doit porter à la manière dont il mène les offices. Alors, le chazan a ce côté, je dirais, d'être plus disponible que ne l'est le rabbin. Il a un côté humain. Je me souviens d'avoir vu un ouvrage sur le chazan de Lausanne, un certain monsieur Berkovitch. On a recueilli, son entourage de la communauté de Lausanne a recueilli ses propos, ses articles. C'était un monsieur savoureux. C'était un monsieur qui savait, qui avait un relationnel extrêmement fort. Et je crois que même à la bibliothèque du musée d'art juif à Paris, il y a un livre sur Koussevitzky, par exemple. Mais c'était un personnage qui était dans des galas de bienfaisance, qui avait un public relation très fort. Et je crois que c'est ça le propre du chazan. Le rabbin peut l'avoir aussi, hein, je ne le lui retire pas.
Et signalons quand même qu'il y a dans les petites communautés juives, vous avez dit le chazan peut être également rabbin, mais dans ces petites communautés juives, souvent le rabbin est également chazan, puisqu'il n'y a malheureusement pas la possibilité d'avoir à ses côtés un chantre, donc il est obligé quelque part d'assumer la partie chantée de l'office.
Il n'y a pas de cloisonnement dans les activités, comme on le disait à l'instant, toute personne qui s'occupe de ce qui a trait au judaïsme et au respect de la Torah doit être très calé et tout, doit beaucoup étudier. C'est une vraiment une nécessité. Par conséquent, le chazan, lui aussi, doit être vraiment au premier. Comment dirais-je ? Il doit avoir le souci de faire tout en conformité avec la loi, avec l'étude, et ça fait partie de son quotidien aussi, comme tout juif d'ailleurs.
Et alors, où se produit le chazan ? Dans quel lieu ? Est-ce que c'est uniquement à la synagogue ?
Bien, par cette espèce de personnalité. Alors, bien sûr, il y a la synagogue, la tefila de tous les jours,
la prière.
La prière. Et puis, il y a des moments où, par lesquels il peut se mêler, je dirais, à la communauté d'une manière plus profonde. D'abord, il y a des fêtes. Hein. Il peut y avoir Hanouka. J'ai ici devant moi une petite brochure qu'a édité Mordechai Sobol, le grand chef de chœur d'Israël. Il avait remarqué, en consultant des archives, qu'au moment de Hanouka, dans beaucoup de communautés, comme Hanouka, c'est une fête chaleureuse, eh bien, il y avait des concerts, on faisait des grands, grands concerts de chazanout pour que les fidèles, en dehors des offices, apprécient les morceaux. Et on a beaucoup de compositions, on va peut-être en...
On va en parler là de suite.
Voilà, on a beaucoup de compositions qui ont été faites pour des concerts qui sont des morceaux issus du rituel de la prière, mais qui servent à des moments beaucoup plus musicaux, beaucoup plus destinés à faire en sorte que les gens apprécient la musique pour elle-même, sans que ce soit la prière vraiment. On en aura des exemples peut-être tout à l'heure.
Eh bien, nous allons apprécier dès à présent un troisième extrait musical, interprété ici par le chanteur Yaakov Toledano. Il s'agit de la prière Elou Devarim, qui est justement interprété en concert. Thank you. Nous venons d'entendre un extrait seulement, malheureusement le temps passe vite, donc un extrait de Hello Devarim, interprété par Yaakov Toledano. Et ce morceau était composé par qui, vous me le disiez
par
hors micro?
Sholom Segunda.
Oui, un c'est célèbre compositeur de musique juive.
Qui a traversé, on peut dire, tout le XXe siècle, et qui souvent, comme c'est le cas à la fin de ce morceau qu'on n'a pas eu le temps d'entendre, qui se termine par une petite ritournelle, et ça c'est fréquent dans les morceaux de Razanout, surtout ceux qui sont en concert, avec une petite ritournelle chassidique. Il y a une influence, bien entendu, dans la Razanout, des nigunim, des petits des airs chassidiques, ou les grands airs chassidiques, qui viennent réveiller à la fois l'auditoire quand c'est un concert, mais même au sein de la synagogue. Ça permet de, j'ose pas dire casser le rythme, mais au contraire d'éveiller un petit peu l'attention, de donner un rythme pour que ce ne soit pas toujours une imploration, toujours quelque chose de triste. Mais il y a, pour les passages les plus appropriés, ce genre de changement, de modulation qui se fait, qui est toujours très apprécié par le public, bien sûr.
Alors, vous venez nous dire que le Razan participe à des concerts, c'est donc aussi un homme de scène, c'est une autre de ses facettes. Pour beaucoup de Razanim, il y a bien sûr la prière dans la synagogue, mais beaucoup rêvent de se produire aussi sur la scène. Et certains, je crois, l'ont fait avec beaucoup de succès, il me semble. Certains sont même devenus de véritables vedettes.
C'est vrai qu'il y a ce que je pourrais appeler une sorte d'interpénétration avec, surtout au cours du XXe siècle, bien sûr, dès l'aube du XXe siècle, dès que une grande partie des communautés d'Europe centrale a émigré vers les États-Unis, ou bien dans le reste de l'Europe, même en Angleterre, et même dans une moindre mesure en France, on a assisté à une véritable explosion de l'art cantorial, comme on l'appelle. C'est-à-dire que beaucoup de Razanim, dans ces pays, dans ce nouveau monde, ont commencé d'abord à enregistrer des disques. Rosenblatt en a enregistré des dizaines. Il s'est même fait filmer. On peut voir sur YouTube Rosenblatt filmé en Israël en 1933 dans tous les grands lieux d'Israël, et il chante en playback, et il chante des chants de la prière.
Et surtout, il a participé au premier film parlant de tous les temps, le jazz singer, le chanteur de jazz, on le voit, c'est en 1927.
Bien sûr, le cinéma n'a pas manqué d'utiliser le Razan comme thème. C'est curieux parce que le premier film parlant, on va parler d'un... Il y en a eu d'autres, il y a eu un film avec Leiba Levalman qui s'appelle Kol Nidre, il y a eu le fils du cantor avec Moïse Oischer aussi, un petit court-métrage que j'ai eu l'occasion de voir aussi au musée dans des copies qui sont très, très très savoureuses. Et on voit que le thème du Razan, de son fils, de l'éloignement de la tradition, d'être tiraillé entre le chant, l'opéra, ou bien le cabaret, ou bien la comédie musicale, tout ceci a été très très fructueux, très très largement représenté. Il y a les chansons yiddish aussi qui sont très très imprégnées de Razanout. Une chanson yiddish, c'est de la Razanout en musique, ou c'est et vice versa. Il y a l'opéra. Nos compositeurs français ont été fortement nombreux, et Samuel David ont été très très inspirés, très influencés. Je pense notamment à Souharim Rachechem de nombreux. C'est de l'opéra. Bref, il y a beaucoup à dire.
Alors restons du côté américain et restons avec Rosenblatt. On ne pouvait pas faire une émission sans vous faire entendre la voix de Rosenblatt dans son célèbre air Ineni et Ani Mimas.
Ineni Ani Mimas Yerosh, nifad mi pachad, yoshev, tehilos yisroh. fadulis hanein lefonecho. Alam hu Yisroel, Asherel shiluach v'ni. V'yaf al pishe v'ni chedai, v'yuhu eguvu v'lechach. Lochen avakesh mimecho, elakei Avram, elakei Yitzchak.
Un extrait de la prière Inini Ani Mimas, interprété par le grand Yosele Rosenblatt, où il, dans ce court extrait, il dévoile déjà tout l'ampleur de son talent, son ambitus incroyable entre des voix de basse et puis cette voix de tête toute douce. On est évidemment dans, toujours dans la Razanout, dans l'art cantorial ashkénaze, notamment d'Europe de l'Est. On va voir par la suite, puisqu'on ne va pas négliger loin de là les chantres de la tradition séfarade, mais est-ce que tous les Razanim chantent de la sorte en Europe de l'Est? On a presque l'impression qu'il pleure. Là,
on est dans les Yamim Noraim. On est dans un morceau qui a été introduit tardivement dans le rituel. C'est « Me voici dépourvu de tout mérite, tremblant de peur, craignant celui qui est vénéré par la louange d'Israël. Je viens, c'est moi le Chazan, je viens me présenter devant toi et implorer ta grâce en faveur de ton peuple Israël qui me charge de cette mission. » C'est la feuille de route du Chazan, vraiment. C'est son ordre de mission qu'il exprime devant les fidèles avec une grande émotion, et tout le monde écoute en se disant c'est lui qui est notre porte-parole ou notre porte-chant, comme on veut. Et c'est dans cette intonation-là qui est nécessaire pour que le fidèle ressente ce que lui ressent et peut-être que le Chazan, pour que le Chazan ressente aussi ce que les fidèles ressentent. C'est vraiment un échange très très fort qui se
Mais
fait dans le
temps,
cadre de la prière.
On sent ici quand même l'âme slave, le côté Europe de l'Est, parce que vous parliez tout à l'heure de la tradition plutôt ashkénaze de l'Ouest, avec Nambourg, avec Lovir, enfin avec d'autres, Samuel David et tout. C'est quand même plus, c'est moins sentimental, si vous me permettez l'expression. C'est plus pompeux, j'allais oui. dire, mais...
Là, on a choisi, c'est vrai, des morceaux vibrants, des morceaux très, très forts de cette manière. On aurait pu, bien sûr, découvrir d'autres facettes. On le fera peut-être, on le verra peut-être au tournant d'autres morceaux. Mais c'est vrai que, compte tenu de ce qu'ont vécu ces communautés, les persécutions et tout ce contexte qui était, il faut le dire, morose, c'est pour ça que la Chassidoute, elle est venue un petit peu de redonner du punch, de redonner une certaine dynamisme, et par des chants, par des nigunim, par des danses, c'est ce qui s'est produit après les massacres de Khmelnytsky au XVIIe siècle. Il a fallu redonner une grande impulsion, et c'est pour cela que dans certains morceaux, on a quand même une partie moins prenante. Il y a une alternance qui se joue.
Ouais, alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, la Razanout ou l'art cantorial chez les Juifs d'Afrique du Nord est très différente. Elle se rattache tout d'abord à la grande tradition généralement du chant arabo-andalou. Cet art né à l'époque de l'âge d'or, c'est ce qu'on dit en tout cas des trois religions, chrétienne, musulmane et juive, à l'âge d'or, ils cohabitaient dans la péninsule ibérique. Et ce chant, comme on va l'entendre dans l'exemple suivant, il s'agit d'un Ashkivenu Avinu Leshalom interprété par le Razan André Taïeb de Montpellier, nous fait pénétrer vraiment dans la sphère d'Afrique du Nord et dans cette musique arabo-andalouse.
« medino melkino lehayim tovim ol jalo. Takininu melkinu beta tovem libani kawa.
Un extrait de la prière Ashkivinu Avinu Leshalom, interprété par André Taïeb dans un disque qui s'intitule I Am Agadol, publié par l'empreinte digitale. Jacques Arnold, en règle générale, est-ce que le Razan officie tous les jours, durant les offices publics, ou quand chante-t-il en fait?
Oui, à tout moment, à tout office important, il est certain qu'on lui donne une place, notamment dans le rite Ashkenaz, toujours. C'est en général la prière de Moussaf, de Yom Kippour, qui avec la Avoda est un moment très fort de la liturgie, ou bien Rosh Hashanah avec les Zichronot, Shofarot, Malchiot, qui est une prière très importante. Mais on voit ici, M. Taïeb essaye avec cette mélodie d'entraîner les fidèles. Là, on n'a pas les fidèles, puisque c'est un enregistre en studio, mais c'est une liturgie qui essaie de faire participer les fidèles. La partie orchestrale ici, enfin les instruments, sont ceux qui pourraient être la mélodie des fidèles. Et souvent, on entend dans les synagogues, bien entendu, avec le rite séfarade, on a la participation très forte du Kahal qui est là avec le Razan, et il y a un entraînement mutuel qui se fait.
Et plus qu'un entraînement, est-ce qu'on ne peut pas considérer le Razan, c'est un peu comme un facteur mémoriel de la communauté, de la tradition, parce que c'est lui qui détient la mémoire, qui détient cette tradition chantée qui fait que les fidèles vont se sentir chez eux dans la synagogue, non ?
Oui, bien sûr. On sait qu'on a tous un souvenir très, très émouvant de ce qu'on entend, un Kol Nidré, un Seder de Pessah avec les chansons, les chants, le Kaddish du Tal, par exemple, qui précède la prière de la rosée ou la prière de la pluie. On a des morceaux monumentaux, des morceaux monuments qui marquent les consciences. Et quand il y a eu cette apparition du micro-sillon, des disques, etc., pourquoi cela a-t-il eu un tellement grand succès? C'est parce qu'on aimait retrouver, comme on allait rue des Rosiers, chercher son pain au cumin avec un morceau de quelque chose pour manger avec. On allait aussi chez Speiser ou chez le disquaire de l'époque pour retrouver un petit nigoun, un petit chant auquel on était très sensible. Et ça fait partie de notre fort intérieur, de notre intérieur profond. Et on en a besoin pour se ressourcer, pour se rattacher à nouveau, à tout moment, pas seulement pendant la prière.
Alors on va justement se ressourcer avec un nouvel exemple, extrait de la tradition portugaise. Il s'agit d'un air monumental, vous en parliez tout à l'heure, chanté à Bordeaux, où qu'on trouve également la synagogue de la rue Buffault à Paris. Il s'agit du Keter.
Yeah.
la première partie de la prière Keter, interprétée par Adolphe Attia. On aura tous reconnu sa voix. C'est un hommage aussi qu'on rend aux chantres Razanim français qui ont chanté ces dernières 50 années, extrait du CD Musique de la synagogue de Bordeaux. Et il y a un autre grand chantre auquel je voulais rendre hommage. Il s'agit de Jacques Jaloudowski, dit Ben Barour. C'était son nom de scène, puisqu'il faisait aussi de la scène. Et vous avez parlé tout à l'heure de la collusion avec la Razanout et parfois le chant yiddish. Il a fait aussi les beaux jours parfois des cabarets yiddish, il a chanté, il était enregistré, mais c'était avant tout le Razan de la synagogue Notre-Dame de Nazareth jusque dans les années 70.
Oui, c'était aussi un monsieur de très grande stature aussi.
Oui, avec une voix de basse absolument magnifique, et on va l'entendre interpréter ici un Yehi Rotson.
Yehi Rotson Milfanecho. Yehi Rotson Milfanecho. Ad Hashem Elokeinu Velokei Avoseinu. Shetechadesh Aleinu Es HaChodesh Hazeh. Shetechadesh Aleinu Es HaChodesh Hazeh. Letoivo, letoivo Veli Verovo. Sitten lannu chayim arrochim chayim shel sholom chayim chayim shel tovo vesiten lanu vesiten lanu chayim vesiten lanu chayim shel sholom shel berocho shel harno.
Rotson, interprété par Chaloudowski d'Ibn Barour, donc qui fut Razan à Notre-Dame de Nazareth. Jacques Arnold, notre émission va se terminer incessamment sous peu, mais vous nous avez apporté un dernier morceau que vous tenez absolument à nous faire entendre. Oui. Il s'agit d'un air interprété par le grand cantor Moshe Koussevitzky.
Juste après la prière pour le nouveau mois, c'est un extrait du psaume 93 que l'on récite le vendredi soir. Il s'agit de la phrase de ce psaume, du verset « Les fleuves élèvent, ô éternel, les fleuves entonnent leur voix, les fleuves élèvent leur ressac, plus que le tumulte des eaux nombreuses, majestueux fracas de la mer. » Vous allez entendre dans ce court extrait qu'on a réussi à isoler, vraiment la voix du Razan qui colle avec le texte, et qui le met en avant, et on ressent l'eau qui coule, on ressent le jaillissement qui est vraiment un véritable travail d'art, une véritable prouesse vocale, on peut le dire.
Nous venons d'entendre la prière Hachem Molor. Les spécialistes ont reconnu, il ne s'agit pas de Moshe Koussevitzky. Le morceau est de Moshe Koussevitzky, mais c'est chanté par Yitzhak Elfkot dans une, avec un accompagnement très américain, si on peut dire.
Mordechai Sobol, oui, le grand
accompagnateur.
Accompagnateur et qui réécrit beaucoup de partitions. Oui.
Très bien, Jacques Arnold. Eh bien, écoutez, notre émission est maintenant terminée. Au nom de tous nos auditrices et auditeurs, je vous remercie infiniment pour ces explications sur le rôle du chantre. Désormais, lorsque nous entendrons chanter cet homme, nous penserons à tout ce dont il est capable, toutes ses prestations, car comme on l'a vu, le rôle du chantre est infiniment plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Homme de terrain, médiateur dans la prière entre Dieu et les hommes, mais aussi médiateur dans la vie de tous les jours, entre les hommes, et ce n'est pas parfois plus facile. Sa tâche n'est pas simple.
Il faut le savourer comme on savoure.
Donc chapeau bas envers vous, messieurs les chantres, et également mesdames les chantres, parce qu'il faut le rappeler, dans les communautés libérales, il y a aujourd'hui parfois des femmes qui occupent cette fonction et que l'on appelle des razanites. Si vous souhaitez réécouter les musiques de cette émission, suivez-nous sur le site de l'Institut européen des musiques juives, dont je rappelle l'adresse www.iemj.org, où vous pourrez également réécouter cette émission, ainsi que les 38 autres qui l'ont précédée. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast sur judaïquefm.com. Au micro, Hervé Roten, David à la technique, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
The sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mine.